gloire du ciel est une place préparée pour moi. Et les rachetés chantent là-bas l'agneau. Et ainsi, l'usage de cette terre, en tout temps, mes yeux sont fixés sur l'agneau. Je marche avec le Seigneur, je le loue. Tous mes désirs sont déjà d'être là-bas. Mon cœur persévère. Bientôt nous serons à la maison. Éternel, nous nous réjouirons. Éternellement, nous nous réjouirons avec lui. Tous les jours, je pense à ce que le Seigneur a fait pour moi. Comment est-ce qu'il m'a racheté par son sang précieux? Alors je ne peux pas rester tranquille, je ne peux que louer et exalter. Oh mon Seigneur, tu as tout accompli de manière merveilleuse pour moi. Quelle joie, quel bonheur règne dans la gloire. Mon cœur est plein de désir d'être déjà là-bas. Persévère mon cœur, bientôt nous serons dans la gloire. Nous nous réjouissons éternellement avec notre Seigneur. Dans les dangers, mon sauveur est merveilleux pour me secourir. Il me garde dans son sang. Ô Seigneur, un jour je me tiendrai devant ton trône. Quand le Seigneur appellera, je le rencontrerai là-bas dans les terres. Quand il viendra prendre son épouse. Dans les bras de Jésus, sûr en son sein. Se reposer dans son amour. Là, je vois déjà les merveilles du ciel. De ta voix douce de berger, mon Seigneur, mon Sauveur m'appelle. Arrête de faire de propres efforts. Repose-toi sur mon cœur. Dans les mains de Jésus, dans les bras de Jésus. Dans son sein. Sûr dans les bras de Jésus, éloigné des tribulations, 주 dans l'épreuve. Parle, Maître Dieu de Jésus. Libre de la pression des soucis. Seulement encore un peu d'épreuve. Seulement encore un peu de larmes. Dans les bras de Jésus. Délivré de la pression des détresses. Jésus, le refuge de mon cœur. Jésus, tu mourus pour moi. Sur ce rocher. Je me soutiens éternellement. Ici, je veux persévérer jusqu'à ce que la nuit passe. Jusqu'à ce que j'arrive au port en or. Et que le jour s'éveille. Jésus, le refuge du cœur. Jésus, tu mourus pour moi. Sur ce rocher, je m'appuie éternellement.
Amen.
Amen. Il y avait encore une partie à chanter. Non. Bon. Je pense que c'est vrai. Nous pouvons être sûrs seulement dans les bras du Seigneur. Tout le reste, tout ce qui nous entoure est sans certitude. Très rapidement, quelque chose peut arriver. Nous savons, l'humanité est pleine de méchanceté, pleine d'amertume. Oui, l'un ne peut pas. Ne veut pas supporter l'autre. Un royaume est contre l'autre, un peuple est contre l'autre. Peuple. Et les attaques qui ont lieu partout, comme aussi il y a eu deux explosions à Caïro, en Égypte, et de nouveau tant de morts et de blessés. Oui, mais nous remarquons que si nous sommes dans ses bras, alors nous pouvons être heureux et reconnaissants. Quoi qu'arrive, nous ne savons pas comment est-ce que nous pourrons être rapidement atteint. Vous pensez que ces hommes-là ont pu le savoir à l'avance? Non. Peut-être qu'ils étaient sans Dieu et sans espérance. Mais louer et remercier soit le Seigneur qui puisse nous accorder sa grâce, que nous puissions vraiment mettre notre espérance en tout temps sur lui, qu'il puisse nous bénir aussi pendant ces heures. Et le psalmiste ici, de manière merveilleuse, dit les choses suivantes dans le psaume 115. Et il est dit ici de manière merveilleuse, « Au Dieu vivant, seul la gloire. » Et nous pouvons seulement dire « Amen à cela. » Le psaume 115, c'est à lui seul la gloire. Et ainsi, le psalmiste dit les paroles suivantes, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire. » Oui, à son nom. Oui, mais par qui est-ce qu'il peut donner gloire à son nom? Seulement par ses élus qui l'invoquent et qui l'adorent, qui lui apportent le cantique de louange. C'est seulement par eux qu'il peut donner gloire à son nom. Tous les autres ne vont pas accepter ces choses, même s'il fait les plus grands miracles. Ils ne l'acceptent pas, mais ils pensent que tout doit être ainsi. Oui, il est dit ici encore au verset 2, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité, pourquoi les nations diraient-elles, ou donc est leur Dieu, notre Dieu est au ciel? Il fait tout ce qu'il veut. Oui, c'est merveilleux. Et il est écrit chez le prophète Esaïe 14, tout ce que le Seigneur a résolu de faire, il le fait, et aucun homme peut l'empêcher. Leurs idoles sont de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles
ils ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur bossier. Ils leur ressemblent ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Israël, confie-toi à l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Mais nous aussi, nous mettons notre confiance dans le Seigneur. C'est ainsi qu'il sera notre secours et notre bouclier. Maison d'Aaron, confie-toi à l'Éternel. Oh, comme c'est merveilleux ici ce que ce psalmiste a prononcé. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Oui, l'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël, il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel. Oui, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Les cieux et la terre. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel, ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons l'Éternel dès maintenant et à jamais. Louez l'Éternel. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever pour la prière. Dieu fidèle, Éternel, nous sommes venus dans la réalité pour t'apporter l'honneur, la louange et la reconnaissance, car tu nous as appelés. Si nous ne le faisons pas, qui le fera, Seigneur? Sois proche de nous dans ces heures et dis-nous ce dont ton peuple a besoin. Tu as la puissance du ciel sur la terre. Seigneur, tu es notre Dieu, nous te louons et nous t'exaltons ton merveilleux nom et nous donnons à toi seul l'honneur et la louange. Sois proche de chacun de nous, bénis ton peuple, bénis tous ceux qui sont venus et tous ceux qui ne pouvaient pas venir, que tu puisses les bénir dans tous les endroits, dans tous les peuples, les langues et les nations. Tu sais ce dont chacun a besoin. Tu nous connais aussi tous, Seigneur. Tous nos cœurs et toutes nos pensées sont révélées, sont manifestes devant toi. C'est ainsi que nous te donnons à toi seul l'honneur, la louange et l'adoration. Maintenant, dans ces heures et dans ces moments, reçois l'adoration de nos cœurs et bouches. À toi seul appartient l'honneur dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Nous nous asseyons, chantons ensemble le chœur 242 dans le petit livre 242. Oh oui, il est merveilleux.
Oh oui,
il est merveilleux. Oh oui, il est merveilleux. Le soleil, la lune et les étoiles. Il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Je sais qu'il est merveilleux. Il sauve, il guérit, il garde et il rapproche. Je sais qu'il est merveilleux. Nous en rendons le témoignage. C'est merveilleux. Nous témoignons que c'est merveilleux. La parole, le sang et le Saint-Esprit. Nous témoignons que c'est merveilleux. Nous louons son sang précieux. Il a coulé pour mon salut. Nous louons la victoire de la croix. Seul, loué soit Jésus dans toute l'éternité.
Amen.
Amen.
Nous
demandons maintenant au frère Franck de venir. Moi aussi, je voudrais fraternellement et cordialement souhaiter la bienvenue à tous dans le nom précieux de notre Seigneur. Et nous nous souhaitons les riches bénédictions de Dieu, particulièrement, fraternellement, nous saluons et nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui aujourd'hui, éventuellement, sont ici pour la première fois parmi nous. Pourriez-vous lever les mains ou alors vous lever qui est aujourd'hui ici pour la première fois? Sûrement quelques-uns. Je vais devoir mettre mes lunettes pour pouvoir mieux voir. Là-bas, oui, que Dieu te bénisse, sœur, que Dieu vous bénisse. Toi, frère et sœur, que Dieu vous bénisse. Là-bas, encore quelqu'un. Ici, une sœur, que Dieu vous bénisse. Oui, ici, Ama. Toi, je vois notre ami de l'Arizona, de Flagstaff, Arizona. Que Dieu te bénisse parmi nous. Sois la bienvenue. Bien-aimé frère, sois la bienvenue parmi nous. Oui, le frère Jean chante. Le beau-fils des frères et sœurs Fleck. C'est merveilleux de ce que aujourd'hui tu peux être ici. Et de la même manière, nous souhaitons la bienvenue à tous. Toi aussi, sœur, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Nous allons, dans ces jours, aujourd'hui et demain, avoir l'occasion de consacrer notre vie de manière nouvelle au Seigneur et entièrement de nous donner à lui et de permettre à l'Esprit de Dieu d'agir. Le temps dans lequel nous sommes arrivés est réellement très sérieux. Et je crois pouvoir dire que quand nous considérons que de nouveau de toute l'Europe, des frères et des sœurs sont venus, les uns ont entrepris 1700 km, les autres 1300 km, et d'autres ont entrepris des kilomètres semblables pour être ici, 600 km ou bien 800 km. Alors, nous constatons que Dieu a envoyé une fin pour écouter sa parole. Alors, sentez-vous bien de toute l'Europe. On n'a plus besoin de mentionner les différents pays. Toute l'Europe est ici représentée et c'est ainsi que nous remercions le Seigneur de ce que nous pouvons encore nous réunir et écouter la parole de Dieu. Le monde entier nous salue en commençant avec le frère Wallström de la Danemark jusqu'à Kapstadt. Et de l'est à l'ouest, tous les frères remettent leurs salutations. D'ici aussi, nous saluons nos amis aussi au Chili, particulièrement, fraternellement, et nous leur souhaitons aussi les riches bénédictions de Dieu. On pourrait venir à parler du voyage missionnaire, aussi d'autres frères qui font des voyages missionnaires, le frère Barillier, le frère Léonard Lifetier, le frère Didier, le frère Gilbert et notre frère de l'Hollande vient de revenir de la Bolivie. Nous sommes très très reconnaissants à Dieu pour tous les frères qui ont dans le cœur de porter la parole de Dieu. Notre frère Barillier est malade, très malade, et il nous demande à tous de penser à lui dans nos prières. Mercredi soir, nous avions lu ici une parole, les derniers versets de Marc, le chapitre 7, seulement la dernière partie du dernier verset. Marc 7, à la fin. Il fait tout à merveille. Il a fait tout à merveille. Une phrase merveilleuse. Marc 7, verset 37. Et cette phrase est vraie. Il a fait tout à merveille. En qui est-ce qu'il a fait tout à merveille? En tous ceux qui sont venus à lui. En tous ceux qui ont cherché en lui le secours. Lisons encore la deuxième partie du verset, la dernière partie. Il a fait tout à merveille. Même il fait entendre les sourds et parler les muets. Mais ils ont dû venir à lui. Ils ont dû venir à lui dans la foi. Je voudrais, avant que nous venions un peu à parler du déroulement de l'histoire, lire dans Romains, le premier chapitre. Romains, le premier chapitre. Et ici, nous lisons le verset 18. Romains, chapitre 1, verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement, écoutez bien, qui retiennent injustement la vérité captive. Dans l'épître de Jude, le verset 3, l'épître de Jude, le verset 3, bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Nous pourrions lire tout un nombre de versets bibliques qui parle de la vérité, de la parole de Dieu et aussi de notre Seigneur qui a dit dans ses paroles connues de l'évangile de Jean qu'il est venu dans ce monde, Jean 18, verset 37, Jean 18, verset 37, 37. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. On pourrait réellement, à ce sujet, lire tout un grand nombre de versets bibliques. Bien-aimés frères et sœurs, nous avons, dans ce mois, vu un siècle. Nous avons vu un événement dans ce siècle, dans ce mois, un événement dans ce siècle. Et nous avons vu un changement à Rome. Nous avons vu aussi, en relation avec cela, ce qui s'est passé. Et je voudrais réellement citer ici et élever quelques points sans venir à entrer dans la politique, car dans cet endroit, nous n'avons rien à faire avec la politique, si ce n'est qu'il y a quelque chose qui se passe, qui réellement a sa place dans la prophétie biblique et a été dans la prophétie biblique annoncée à l'avance et maintenant dans la fin des temps est en train de devoir s'accomplir et s'accomplir. J'ai seulement quelques-uns de tous les différents magazines et de l'Internet aussi. Pour une seule et unique raison, je vous montre encore une fois une photo avec tous les personnes vêtues de pourpre. Et ensuite, je pose la question, que dit les Écritures? Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Dans l'Internet, il y a beaucoup d'exposés. En lisant ces choses, ce qui nous intéresse, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Dans le sixième son, il est parlé de ceux qui sont vêtus de pourpre et qui portent le pourpre, que ensemble avec les rois de la terre, ils vont vouloir s'enfuir et vont demander aux montagnes et aux rochers de tomber sur eux et de les couvrir devant la colère de celui qui est assis sur le trône. Apocalypse, chapitre 6, le verset 14, et ensuite le verset 15. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le jour, le grand jour de sa colère est venu. Et qui peut subsister? Seulement comme pour donner une vue d'ensemble. Il y a 482 ans d'ici, c'était un Allemand que Dieu avait utilisé pour accorder le réveil de la Réformation par la grâce de Dieu. C'était un Allemand, un moine, qui a écrit et cloué les 95 thèses sur l'église de Wittenberg. Et ainsi, la Réformation a pris son cours jusqu'à Genève et jusqu'à Graz. C'est ainsi que cela est écrit dans l'histoire de l'Église. Maintenant, c'est de nouveau un Allemand qui est en train d'appeler à revenir toutes les Églises qui ont été formées au travers du réveil de la Réformation. Il est en train de les appeler à revenir et ils suivent l'invitation. Ils viennent, ils reviennent dans le sein de la mer, et on peut le lire dans tout ce qui est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, si pour cela il n'y avait pas une prophétie biblique, si la tête, l'une des sept têtes qui avait été blessée à mort et qui ensuite a été guérie, s'il n'y avait pas Apocalypse 13, pour monter et pour avoir toute l'image devant les yeux, alors on n'aurait pas besoin de parler de ces choses. Pour nous, ça ne nous suffit pas de lire devant et recevoir des exposés de l'Internet. Nous avons besoin de l'orientation divine, de l'orientation qui vient de Dieu. Et nous allons devoir écrire là-dessus parce que c'est simplement très actuel pour voir comment est-ce que toute l'humanité, et ça, nous avons Jésus se prosterne et mettre les genoux, se mettre à genoux, se prosterne et vénère et adore une personne, un homme, comme cela n'a jamais été sur terre auparavant. Déjà par le départ de l'un et ensuite aussi par le couronnement de l'autre. Des dignitaires protestants, des grands protestants, et se prosternent, mettent les genoux à terre et plient leurs mains, et en même peut-être en le faisant, exprimer le Notre Père. Et tous ont témoigné à sa personne de l'honneur et du respect. Et l'introduction aussi était semblable. Celui qui a un peu considéré les discours qu'il a tenus, je n'avais pas assez de temps, mais j'ai vu quand même certaines choses. On ne trouve aucune parole pour cela. Seulement deux versets bibliques me sont venus en écoutant. L'un de Philippiens, où il est dit que quand notre Seigneur commencera son règne, tous genoux fléchiront devant lui et toute langue l'adorera, tel qu'il est écrit déjà dans le prophète Esaïe et aussi dans Philippe chapitre 2. Et tout genou se fléchira devant moi et toute langue confessera que je suis le Seigneur et m'adorera. Et maintenant, là, il y a quelqu'un là-bas devant qui tous les genoux se fléchissent. Il est adoré et vénéré, et tout le monde entier semble regarder là-bas et prendre part à cela, à l'exception de quelques personnes qui peut-être ont des hésitations et de la réflexion. Je ne vais pas rentrer dans les détails de tous ces exposés de l'Internet, mais que les choses suivantes soient dites. Dans l'un des exposés de l'Internet, il est dit ici, citation, le dernier pape, selon la prophétie telle et telle, suivante, le tout dernier pape viendra et dans son temps, Rome sera détruite. Donc ils disent après celui-là maintenant, et un juge terrible jugera le peuple. Cela est écrit dans l'Internet. Dans ma Bible, dans Apocalypse, le chapitre 18, Apocalypse, chapitre 18, au verset 16, il est écrit, et diront, malheur, malheur, la grande ville qui était vêtue de fin lin, de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles, en une seule heure, tant de richesses ont été détruites. C'est ainsi que cela est écrit dans les Saintes Écritures, et c'est ainsi que cela va s'accomplir. Il y a un autre écrit ici, aussi dans l'Internet, les 264 pontifices n'étaient pas des hommes spirituels, c'était seulement des hommes religieux. Nous ne voulons pas non plus ici juger. Je veux seulement montrer, je l'ai sûrement déjà fait, que réellement, selon leur foi ou bien alors la superstition, il y a 266 cases qui sont déjà préparés dans un tableau où tous les peuples, tous les papes, quand ils seront tous passés, seront donc inscrits. Et ils prévoient 266 en tout. Quand la case sera pleine, et le 265e maintenant gouverne depuis le 24 avril. Et oui. Et donc, le dernier, après lui, d'après eux, viendra, et la fin viendra. Mais pas parce que c'est écrit ici dans un livre, mais parce que réellement, nous savons aussi que nous sommes à la fin de la fin des temps. où réellement tout tel que du temps de l'Empire romain c'était, que tout est maintenant aussi soumis à la domination de Rome. C'est-à-dire que le pape actuel, en fait, n'a pas beaucoup à faire. Presque tout a déjà été fait et tout est déjà préparé. Et je ne veux pas vous retenir beaucoup dans ces choses, mais ce sont des pages pleines qui sont écrites concernant ces choses. Comment est-ce que toutes les religions, comment est-ce que réellement tous se fléchissent leurs genoux devant lui et vont à Rome. Et c'était justement le dernier pape qui avait pour la première fois visité, pour la première fois les synagogues juives à Rome. C'était le dernier pape qui, à Damas, avait visité la mosquée. C'était le dernier pape, l'ex-pape, donc le dernier qui est parti, qui avait pour la première fois allé au mur de lamentation à Jérusalem. C'était le premier qui était allé à Jacques Vachem, où là-bas l'Holocauste est représenté dans un musée et par des photos. Et c'est ainsi qu'il a fait en sorte que tout soit préparé et est préparé, et que maintenant ça a seulement besoin d'être exécuté. Il y a encore une remarque que je veux faire en ce qui concerne la tihara sur la tête des papes était la couronne. Elle est en trois parties, elle est en or. Et imaginez-vous, en 1963, le 30 juin, alors que le couronnement du pape Paul VI avait eu lieu, seulement quelques mois après cet événement, ce pape-là avait déposé sa couronne sur l'autel, et le plus grand cardinal des États-Unis de l'époque a eu le droit de prendre cette couronne et de l'amener à Washington, aux États-Unis. Et ce qui était lié avec cela, ou qui n'était pas lié avec cela, on ne sait pas exactement, mais cela a eu lieu dans le temps du deuxième concile du Vatican, où tous les protestants devaient revenir et être appelés et avaient été invités à revenir, à Rome. Et c'est peut-être raison que ce qui les empêchait de répondre à cette invitation, c'était la couronne du pape. C'est peut-être raison qu'ils l'ont amené en Amérique pour que ainsi l'obstacle soit ôté et qu'ils puissent répondre à l'invitation et venir à Rome. Et c'est comme ça que même cette couronne là-bas aux États-Unis fait beaucoup d'argent, parce que beaucoup de touristes vont la visiter dans ce musée. Et au chef qui concerne les États-Unis et le temps actuel, le frère Branham a fait des déclarations, et nous remarquons comment est-ce que maintenant aussi les fronts se montrent. Le frère, Monsieur Poutine était justement à Jérusalem, et vous voyez, il se tient de l'autre côté, il veut armer les Palestiniens, il veut faire des choses ensemble avec la Syrie. Et pourquoi est-ce qu'il est écrit dans le prophète Isaïe que la Syrie et que Damas seront détruits? Tout est réellement déjà contenu dans la prophétie de la fin des temps et est en train de s'accomplir. Nous n'allons rien pouvoir empêcher de toutes ces choses. C'est la fin des temps et ces choses doivent simplement se dérouler ainsi. Mais ce qui me touche, c'est peut-être encore quelque chose, encore une pensée, et nous allons venir à l'observation de la parole. Le dernier livre du professeur Ratzinger, le pape actuel. Et ici, il y a les choses suivantes qui sont écrites. À la page 74 de ce livre, les traces de la confession de foi appelé apostolique que nous voulons conserver. Le titre était, de ce chapitre, remarque de l'histoire et de la structure de la confession apostolique. Je ne sais pas si nous connaissons l'histoire de l'Église et si cela nous intéresse et si nous l'avons lu. Mais la confession de foi qui a été formulée dans sept différents conciles est la confession de foi de l'Église romaine catholique et de toutes les églises orthodoxes, et c'est la confession de foi de toutes les églises dans le monde entier, même dans une église pentecôtiste dans laquelle nous étions avec le frère Menet à Malena. Ils avaient cette confession de foi écrite et il était dit là: je crois à l'unique Sainte Église catholique. Mais regardez ce que cet homme ici, écoutez ce que cet homme ici dans son livre écrit, parlant justement de la confession apostolique. Le fondement sur lequel se repose notre confession de foi a été formulé dans le déroulement du 2e et 3e siècle en relation, en liaison avec l'exécution du baptême. Ensuite, il fait mention de Matthieu 28 dans son livre, et ça, je vais maintenant sauter cela, et il est écrit encore ici: probablement, déjà dans le déroulement du deuxième et encore plus dans le troisième siècle, d'abord, premièrement, la forme en trois qui en fait accepte Matthieu 28 est venu à la première place et s'intitule la question du Christ. Et maintenant, est le point où je ne vais pas rentrer dans les détails. À peu près dans le 5e siècle, maintenant de nouveau, peut-être dans le 4e siècle, a apparu la légende, noir sur blanc, la légende, il est écrit noir sur blanc, il le dit, a apparu la légende de l'origine apostolique de ce texte de Matthieu 28. S'il vous plaît, encore peut-être pour explication. Qu'est-ce que nous avons, qu'est-ce que l'Église du Dieu vivant a, qui elle-même, selon 1 Timothée 3, verset 15, est l'appui ferme et le pilier de la vérité. Qu'est-ce que l'Église a à faire avec une confession de foi qui, d'un côté, est appelée confession de foi apostolique et d'un autre côté aussi, est montrée comme légende qui aurait apparu dans le 4e siècle, peut-être, qui semblerait? Non. Qu'est-ce que nous avons à faire avec cela? J'ai regardé un peu plus près, et c'était dans l'histoire des dogmes. Il y a réellement le mot dogme, je vais l'épeler, Dora Oto Kaiser Emil Idanol Po Doken. Et cette parole vient du grec et veut dire sembler. Les dogmes ont apparu, ont existé parce que les pères des églises ont semblé être ainsi ou bien ainsi aux pères des églises. Ou qu'est-ce que moi j'ai à faire avec quelque chose qui semble être ainsi? Moi j'ai seulement un seul livre, et ce livre, c'est le livre de la vérité. Ici, ça ne semble pas être ainsi. Ici, c'est ainsi. La parole de Dieu ne semble pas être la vérité, elle est la vérité. Et bien, mes frères et sœurs, Dieu nous a réellement ramené dans l'original pour permettre justement une séparation avec tout ce qui ne vient pas de lui, pour que nous formions un peuple séparé, mis à part, pour pouvoir lui être agréable et être un peuple bien disposé pour lui. Si nous avons lu, par exemple, que le Seigneur a fait toutes choses à merveille, alors que à la fin de notre voyage de pèlerin, il puisse être aussi dit qu'il a fait aussi dans notre vie toutes choses à merveille en toi et en moi. Pour, et pourquoi est-ce qu'il a, il a fait cela? Parce que dans ce temps dans lequel nous vivons, nous étions venus à lui, tel que nous sommes venus à lui, et c'est lui qui a fait l'œuvre en nous. Une parole d'Hébreu, le chapitre 4, nous voulons lire cela, on peut toujours de nouveau le lire. Je m'excuse que nous avons un peu pris du temps dans le déroulement, des, dans les événements des temps actuels. Hébreu chapitre 4, le verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Autre tradition est, ne s'est pas encore accompli. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Être venu trop tard. Ou bien être resté. Autre tradition. Ça, c'est une parole qui nous pénètre les os. Et bien, mes frères et sœurs, et bien, mes amis, nous avons réellement, de la même manière, il y a 4 semaines ici, vu qu'une dame qui, pour la première fois, en tant que catholique pratiquante, était venue ici et était entrée dans la salle. Elle a été tellement saisie par la parole et touchée, et dans quelques jours, elle était à la justice d'office et elle est sortie de l'église catholique. Et elle était convaincue de la prédication de la vérité, et elle était convaincue que la parole de Dieu qu'elle a entendue était la vérité. Et que cela vient de Dieu. L'Esprit de Dieu, vous voyez, agit encore. Ce ne sont pas les foules. Les foules qui viendront, ce sont des individus, ici et là. Et peut-être que cela aussi doit être dit. Que tous ceux, aussi à l'intérieur du message, qui se mentionnent de Dieu, qui se disent de Dieu, et qui se disent la parole de Dieu, et qui se disent accepter le ministère de Frère Branham, le reconnaître et le croire, que eux aussi, réellement, ils puissent réellement revenir à l'original, à la parole de Dieu authentique, et sortir de toutes les interprétations, les doctrines, et de toutes les différentes directions, à cause des différentes interprétations qui sont faites. J'ai apporté 3 prédications de Frère Branham. Je vais seulement lire un petit passage de chacun. De la prédication, qu'est-ce que je dois faire de Jésus? Ici, dans la page 25, citation, le temps de l'union des unions dans lesquelles l'Église, les Églises et les nations s'unissent est là. C'est aussi le temps de l'union de Dieu avec et dans l'épouse. Je dis cela avec crainte et respect. Je crois que l'épouse du Christ a été appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Et je crois que la mécanique est présente et que l'épouse attend seulement encore la dynamique qui l'enlèvera et la fera quitter la terre et aller dans la gloire. Tous nous savons que ce n'est pas par la puissance et l'honneur, comme c'est écrit dans Zacharie 4, mais par l'Esprit de Dieu. Souvent, et combien de fois nous devions encore dire cela selon la vérité, Dieu, lors de la première venue de Jésus-Christ, il a eu un messager et il a envoyé un message. Il a envoyé un messager, il a envoyé un message. Et de lui, il est écrit dans l'évangile de Jean, au premier chapitre, pour que tous croient par lui. Dieu l'avait promis, et il a accompli sa parole. Et voilà qu'un homme envoyé de Dieu a apparu. Dieu n'a pas besoin pour cela de te demander à moi ou bien à toi, est-ce qu'il a le droit de faire ceci ou cela. Il n'a pas besoin de poser la question à qui que ce soit. Qui est-ce qu'il veut utiliser pour faire ce qu'il veut faire, pour que la promesse qu'il a donnée trouve son accomplissement. Mais les prophètes ont été de la part de Dieu lui-même, depuis leur enfance, depuis leur jeunesse, depuis leur naissance, consacrés à Dieu, pour un ministère bien précis, lié à l'histoire du salut. Nous le voyons. On n'a probablement pas le temps de le dire encore longtemps. Le faux prophète, qui en tant que prophète de mensonge, qui est désigné dans l'Apocalypse, a le devoir de séduire toute l'humanité et de l'amener sous une seule tête, avec décorés de versets bibliques. Séduire, décorés de versets bibliques. Et si ils disent, même en citant Jean 10, pour qu'il y ait un seul berger et un seul troupeau. Et s'il dit même en citant Jean 10, ce faux prophète, que j'ai encore des brebis qui ne sont pas encore dans la bergerie, que je vais appeler tous. Ça, ce sont les paroles de notre Seigneur de Jean 10. Et que personne n'a le droit de l'utiliser et de l'approprier à sa personne. Pourquoi c'est lui qui va les appeler? Non, c'est le Seigneur qui est le bon berger. C'est lui qui a donné sa vie pour les brebis. Et c'est lui qui l'a envoyé d'abord à la maison d'Israël et qui avait dit, n'allez pas aux nations. Et ensuite, il a envoyé aux nations parce que déjà Dieu, par Abraham, avait donné la promesse. En toi seront bénies toutes les nations de la terre. Comme ensuite par Jacques, dans Actes des Apôtres, le chapitre 15, cela a été exposé que Dieu d'abord s'est racheté un peuple des nations et ensuite il se tournera de nouveau entièrement à Jérusalem, à Israël. C'est pour ça que Paul devait dire, parce que vous n'acceptez pas la parole, nous nous tournons vers les nations. Car lors de son appel, dans Actes des Apôtres, chapitre 22 et chapitre 26, il lui avait déjà été dit qu'il ira aux nations, qu'il doit aller aux nations pour prêcher la parole. Et que cela s'est passé. Dieu donc a un ordre dans la rédemption et nous devons nous soumettre à cet ordre. La parole n'est pas sortie de Rome, la parole de Dieu n'est jamais sortie, elle est sortie de Jérusalem. Et le Seigneur ne va pas venir à Rome pour se faire recevoir par des dignitaires et des grands là-bas. Il ira sur la montagne de Sion, il ira à Jérusalem et il établira là son règne. Et ensuite, il sera adoré. Mais écoutez encore une fois ce que frère Branham déjà autrefois disait. Le temps de l'union est là, dans lequel les églises et les nations s'unissent. Nous avons vu cela de nos propres yeux, dans toutes les différentes langues. Il a été dit la parole adéquate à chacun, et tous sont séduits et acceptent. Non, ils cherchent les mots adéquats pour séduire dans toutes les différentes langues. Ensuite, je continue à lire la citation. C'est le temps aussi de l'union de Dieu, c'est-à-dire entre époux et épouse. Et ensuite, il continue, citation, et il dit, je dis cela avec crainte et respect. Je crois que l'épouse du Christ a été appelée à sortir. Bien sûr que frère Branham, comme déjà les prophètes, avait parlé dans la forme passée. Prenons par exemple le psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Comme si cela s'était déjà passé. Prenons par exemple Ésaïe 53. Il a été meurtri pour nos iniquités. C'est ainsi que Dieu utilise cette forme, parce qu'aux yeux de Dieu, tout déjà est résolu, tout est déjà accompli. Il a fait déjà tout à merveille et il a achevé déjà tout en tous ceux qui viennent en lui, à lui, pour trouver en lui le secours. Mais si quelqu'un de quelconque ici viendrait à cette idée-là de dire, mais un moment, s'il vous plaît, on pourrait faire ici une doctrine. Et de faire une doctrine, de dire, mais regarde, c'est une prédication de 63. Donc, le frère Branham a dit que l'épouse en 63 a déjà été scellée, a déjà été appelée à sortir. Donc, tous ceux qui sont nés après 63, ou bien nés de nouveau après 63, viennent trop tard, ne peuvent plus être dans l'épouse. Vous voyez, on n'a pas le droit d'infiltrer ses propres pensées dans une citation de frère Branham. Les citations doivent être laissées telles qu'elles sont. Comme Paul dit à Timothée, tu es versé dans les Écritures depuis ton enfance et ce sont telles qui te feront comprendre ce que je dis. Et ensuite suivra la directe action du Saint-Esprit dans l'Église. Et c'est-à-dire la dynamique, pas seulement la mécanique. Et c'est ce dont nous avons plus jamais le frère et soeur. Pas seulement d'une onction, pas seulement d'être de nouveau vivifié. Mais nous avons besoin d'être revêtus de la puissance d'en haut, d'une manière nouvelle. Ça ne sert à personne de nous de répéter ce que Jean-Baptiste disait. Je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Cela, dans l'Église primitive, appartenait à l'expérience de la conversion. Et nous devons revenir à ce modèle biblique qu'une conversion conduit à la nouvelle naissance et qu'une nouvelle naissance conduit au baptême du Saint-Esprit. Et que les expériences telles qu'elles ont été faites au commencement soient faites aujourd'hui, comme Paul dit aussi à Tite, dans Tite 3, verset 8, il lui dit de prêcher ces choses et d'insister là-dessus, après avoir parlé des expériences. Et la dynamique de cette église, de l'épouse, va accorder aux chrétiens d'être de nouveau remplis du Saint-Esprit comme au commencement, qui, déjà parmi nous, dit frère Branham, dans la citation, est déjà visible en petite mesure. Oh, si donc frère Branham désigne ce qui s'était passé par son ministère en tant que quelque chose en petite mesure, qu'est-ce qui va alors se passer quand toute l'Église, le corps de Jésus-Christ, sera apporté à l'unité de la foi sous la puissance et l'autorité de Dieu et de l'Esprit se tiendront et viendront à la connaissance, à l'unité de la connaissance du Fils de Dieu, qu'est-ce qui se passera alors? Et nous pensons aussi à cette citation de Frère où il disait ce que Dieu a fait par le messager ou bien fait, il le fait aussi par toute l'Église qui croit le message. Et maintenant, nous lisons cette phrase encore une fois et nous la lisons de nouveau. Continuons. La dynamique de cette Église va accorder aux croyants d'être de nouveau remplis du Saint-Esprit qui, parmi nous maintenant déjà en petite mesure, déjà a été visible. Oh, donc je continue la citation à lire, pendant que la pierre de fait descend pour s'unir avec le corps, avec l'édifice. Notre Seigneur est l'alpha et l'oméga. Il est la pierre angulaire et selon Zacharie 4, il est la pierre de fait. Et quand la pierre de fait sera placée, alors la louange sera grande parmi le peuple de Dieu. Donc, c'est ce que nous avons ici, en fait, et la description du chemin. Et ça aussi, c'est aussi devenu important pour moi. Vous savez, nous étions ce week-end à Berlin, et nous avions eu là-bas une réunion merveilleuse. 12 se sont laissés fasciner. Mais ce qui m'a impressionné était, alors que le frère Hammerstock m'avait conduit à l'aéroport, il avait seulement donné le programme au système de navigation de la voiture. Et il a été dit, dans 300 mètres à droite et dans 3 km aller tout droit, c'était une description du chemin. Et cela m'a plu. Devant moi, le plan, et dans mes oreilles, l'instruction. Les deux étaient là, le plan et l'instruction. Et je pensais en moi-même, si nous puissions tous avoir le plan de Dieu, l'indicateur, la description du chemin, la Bible, la parole de Dieu révélée dans tout ce temps présent, et ensuite, concernant les promesses de ce temps, et ensuite, les instructions, donc comprendre comment rester en position de toutes ces choses, promises pour ce temps présent. Alors, quand nous étions arrivés, à l'aéroport. Alors, l'annonce a été faite. Vous avez atteint le but. Ah, ça, c'était quelque chose de très puissant. C'était une prédication pour moi. Seulement, j'ai seulement eu besoin de descendre de la voiture. Et il a été dit, vous avez atteint le but. Cela, c'était comme la parole du Dieu qu'il attendait. Mais frère, nous voulons atteindre le but. Nous avons besoin de la description du chemin. Nous avons besoin de la description du chemin. De l'orientation, nous avons besoin de l'orientation. Et cela, de la parole de Dieu. Et nous remercions le Seigneur de ce que cette parole n'est pas une lettre morte, mais elle parle. Les Écritures parlent, les lettres parlent, la lettre parle, elle est vivante et Dieu parle avec nous par sa sainte et précieuse parole. Donc, dans le temps où la pierre de fête vient, où l'achèvement a lieu et que l'époux et l'épouse sont unis, c'est là que la plus grande œuvre de Dieu sur terre aura lieu. Dieu va avec majesté achever son œuvre. Avec majesté achever son œuvre. Il est écrit encore ici. Quand le corps et la tête s'uniront, la pleine puissance, la même puissance du Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ dans les morts se manifestera dans l'Église. Même les morts qui des centaines d'années s'étaient endormis en Christ vont ressusciter et tous dans leur beauté, dans sa beauté, dans sa gloire vont ressusciter et vont entreprendre le vol dans le ciel, dans la gloire, par l'enlèvement. Et ensuite, la fin de cette citation. La dynamique est le Saint-Esprit. Et ça, c'est la puissance de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. Qu'est-ce que frère Branham disait dans un autre verset? Vous pouvez avoir le meilleur moteur. Et le meilleur moteur peut avoir toute la technique actuelle, moderne. Mais s'il n'y a pas d'essence, de carburant. Il n'y a même pas d'étincelle possible. Vous pouvez avoir la clé, avoir accès à la voiture et tourner, mais peut-être avoir une batterie vide. Mais l'étincelle a lieu s'il y a la puissance, même s'il y a la puissance du carburant dans le réservoir. Et puis le réservoir n'est pas vide, mais il est plein. Et c'est ce dont nous avons besoin, mes frères et sœurs. Nous avons besoin d'un réservoir plein. Et je vous dis que le baptême du Saint-Esprit, qui est la puissance de Dieu, est décrit dans beaucoup de prédications de frère Branham et aussi dans les scènes d'Écriture. Donc, résumons courtement ensemble de quoi il s'agit maintenant. Romains 1. La vérité n'a pas le droit encore longtemps d'être de manière injuste rendu captif. Car nous devons, Romains 1, verset 18, et nous allons reconnaître la vérité. Et seulement la vérité nous rendra libres. La vérité a une puissance de délivrance en elle. Une puissance de Dieu pour délivrer en elle. C'est pour cette raison que la vérité doit être prêchée. Et ensuite, revenir à cette parole, tous ceux qui sont de Dieu écoutent les paroles de Dieu. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais ensuite, suit réellement l'avertissement, qui, l'avertissement très important, que tous ceux-ci devraient prendre au sérieux. Dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 2, à partir du verset 8, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 8. Et alors, paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, C'est une chose de parler d'être sauvé. Et c'est une autre chose, réellement d'expérimenter qu'on est sauvé, d'expérimenter son salut et de sortir de l'erreur et être sanctifié par le Saint-Esprit dans la, parole de la vérité. Ensuite, nous avons dans le prochain verset, au verset 11, la description encore plus claire. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, pour qu'ils croient à des choses qui n'ont pas leur origine dans la parole de Dieu. 1 Jean 2, verset 27. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Nous avons besoin, pas ici, d'aller dans les détails des choses, ou alors nous ne pouvons pas le faire, mais même ceux qui font des miracles vont aussi être considérés en tant que des gens qui sont ouvriers d'iniquité, qui ont pratiqué l'ouvrier, et qui ont pratiqué l'iniquité. Dans Matthieu 7, à partir du verset 21. Donc, tel que frère Branham, toujours de nouveau, disait, examinez tout par la parole, au travers des Écritures. Ce sont les Écritures, la parole de Dieu, et c'est notre absolu. Même les signes des miracles qui ont lieu, cela ne veut encore rien dire. Cela veut seulement dire que les hommes, les personnes, au moment précis, ont cru. Pour qui ça, on a prié, on cru. Ça ne veut rien dire d'autre. Ils ont cru à leur guérison et ils l'ont expérimenté sans considérer qui était l'évangéliste et qui a prêché la parole de la guérison. Celui qui croyait l'a expérimenté parce que Dieu confirme sa parole. Mais il s'agit de plus, il s'agit réellement de la guérison du corps de Jésus-Christ. Et il s'agit de l'Église du Dieu vivant. Auparavant, j'avais voulu encore avoir exposé que réellement, toutes les communautés religieuses, chrétiennes et églises libres ont la même confession de foi. Et c'est peut-être raison que c'est facile pour elles de repartir dans le sein de la mer. Mais notre confession de foi n'a pas été formulée dans le 3e, dans le 4e siècle, dans des différents conciles constitués. Mais et nous n'avons rien à faire avec ce que ces hommes-là, là-bas, semblent bien et semblent justes. Mais nous avons à faire avec ce qui est juste, pas ce qui a semblé juste à ces personnes religieuses, pas ce qui semble être juste à une apparence de vérité, mais qui est vraiment vrai et écrit ta parole, la parole de Dieu, ne semble pas être la vérité. Elle est la vérité. Elle ne semble pas être vraie. Elle est vraie. Et ça, c'est la grande vérité. La grande différence à faire. L'appel à sortir par le message dans notre temps est très important. C'est un ordre de l'heure. C'est l'ordre. C'est pas seulement une demande, mais c'est un ordre. Ça appartient à notre perfectionnement, à notre achèvement, à notre préparation. Ça appartient au déroulement lié à l'histoire du salut dans le jour. Alors ça ne sert à personne de dire, oui, mais il y avait eu assez de réveil. Bien sûr, qu'il y a eu des réveils. Bien sûr qu'il y a eu la réformation. Et il y a eu aussi les différents réveils qui ont conduit le peuple de Dieu plus profondément dans la vérité de Dieu après la réformation. Mais nous ne vivons pas dans les jours de la réformation. Nous ne vivons pas non plus dans les jours après la réformation où les vérités en partie et toujours plus profondes ont été révélées au peuple de Dieu. Nous vivons réellement maintenant dans le temps de la fin, de l'achèvement, dans le temps dans lequel tout le conseil du salut de notre Dieu a été et est révélé. Et heureux les hommes qui réellement de tout leur cœur peuvent croire. Et celui qui croit, comme le dit les Saintes Écritures, c'est à lui que la parole sera révélée. Si nous ne pouvons pas croire ce que la parole de Dieu nous dit, alors Dieu ne parlera pas avec nous. Dieu peut seulement parler avec nous si nous croyons ce qu'il dit. Si nous ne croyons pas ce qu'il dit, alors pourquoi est-ce que Dieu devrait alors parler avec nous? Non, c'est simplement une chose très sérieuse. J'aurais préféré encore lire deux citations des prédications suivantes. Aussi de l'année 63, le signe. Ici, frère Branham dit la chose suivante. Autrefois, il fallait que le sang réellement soit appliqué au linteau des portes. Mais maintenant, c'est le Saint-Esprit. Nous allons encore revenir là-dessus pour prouver cela. La vie est la preuve. Votre vie est passée et vous êtes mort. Votre vie est morte et vous êtes maintenant caché avec Christ en Dieu et scellé par le Saint-Esprit en lui. Et les pensées, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ sont maintenant en vous. Et la vie, et sa vie est en vous. Est-ce que cela est déjà vrai avec toi et avec moi? Ou bien alors c'est seulement une prédication qui a été faite et dans la parole de Dieu? Bien, mes frères et sœurs, je voudrais vous encourager de venir au trône de la grâce et de tout votre cœur croire que par Golgotha, réellement, une pleine rédemption et une pleine réconciliation avec Dieu a eu lieu et que la justification par la foi est une réalité divine dans notre vie. Est devenue une réalité divine dans notre vie. Que la justification par la foi soit une réalité divine dans notre vie. Et que personne n'a le droit de découvrir le passé de quelqu'un et de dire ceci ou bien cela. Non. Ce qui a été apporté sous le sang et est sous le sang, personne n'a le droit d'aller encore découvrir cela. Le Seigneur a tout jeté dans la mer de l'oubli de son amour. Donc, Dieu a tant aimé le monde. Personne. Que personne soit en train d'imputer quelque chose à quelqu'un, de pointer le doigt de qui que ce soit, mais qu'il trouve la grâce auprès de Dieu et la trouve et reçoit le pardon et la pleine réconciliation et le plein salut de notre Dieu. Nous avons pas seulement les exposés dans les Saintes Écritures concernant toutes ces expériences, elles sont devenues pour nous un encouragement pour que nous soyons motivés et que nous pouvons comprendre que dans notre vie spirituelle, les choses doivent devenir telles qu'elles étaient dans la vie spirituelle des premiers chrétiens, dans l'église primitive, dans les premières heures. Il y avait un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul cœur et une seule âme étaient les premiers chrétiens. Seulement liés en Dieu les uns avec les autres, en tant qu'un seul corps, baptisés dans un seul corps par le même Esprit de Dieu. Il faut que cela devienne vrai. Et bien, mes frères et sœurs, pas seulement une prédication là-dessus, mais une expérience réelle avec Dieu. Et il n'y aura pas un autre chemin pour pouvoir atteindre le but. Cela va et doit se passer. Qu'en cet endroit, nous allons prier comme ils ont prié dans la chambre haute. Nous allons être remplis du Saint-Esprit, de la même puissance qui a ressuscité Jésus dans les morts, dès qu'ils ont été remplis. Et que la fin ainsi sera semblable au commencement. Et que le nom de Jésus, dans sa signification, ne soit pas seulement révélé, mais dans la puissance liée à la révélation de ce nom. C'est-à-dire, peut-être que Pierre avait dit dans Actes des Apôtres, au chapitre 3 et aussi au chapitre 4, ne regardez pas à nous comme si ce serait nous qui aurions fait marcher cet homme ici. Mais par la foi au nom de la puissance, dans la foi à la puissance du nom de Jésus, c'est ainsi que cet homme marche devant vous ici. C'est ainsi que nous l'avons aussi souligné au commencement de Marc 7. Le Seigneur a fait toutes choses à merveille. Il a fait tout à merveille. Les aveugles pouvaient voir. Les boiteux pouvaient marcher. Les pécheurs ont reçu le pardon de leurs péchés. Il a fait tout à merveille. Il est le même hier, aujourd'hui et le même éternellement. Il lit, il soigne, il guérit, il délivre, il sauve. Que personne reparte avec son fardeau, avec ses soucis. Venez à moi, vous tous, dit le Seigneur, qui vous tous êtes fatigués et chargés. Je veux vous rafraîchir. Je veux vous donner du repos pour vos âmes. Résumons de quoi il s'agit maintenant. D'un côté, dans le domaine politique, dans le domaine religieux, avec Israël, avec l'Église, dans différents domaines s'accomplissent les prophéties bibliques. Et nous remercions Dieu pour la vue d'ensemble qu'il nous a accordée dans sa sainte et précieuse parole. Nous ne lisons pas seulement trois fois, car vous verrez que tout cela s'accomplit. Vous savez que c'est devant la porte, mais alors que votre enfant est proche. Non, nous le voyons s'accomplir. Nous lisons et nous le voyons. Et nous l'écoutons par la grâce de Dieu, toujours de nouveau. Mais vous voyez ce qui est passé, ce qui s'est passé. La division de l'Europe, il y a à peu près 500 ans, et ensuite la division de l'Europe, qui a aussi passé au milieu de ce pays, l'Allemagne, et au milieu d'une ville, Berlin, en tant que résultat de la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu un mur à Berlin. Le pays et cette ville a été séparée en Est et Ouest. Et c'est ainsi qu'il y avait eu des chars russes et américains avec les armes placées l'un contre l'autre en face au grand portail de Berlin. Et maintenant, cette division est terminée. Les deux divisions sont terminées. Celle de l'Europe et celle de l'Allemagne. Les deux blessures sont guéries. Les blessures sont guéries. La blessure est guérie. Et si les Saintes Écritures parlent de cela, que lui, toujours, qui est celui-là, il ou alors lui, que tout le monde l'adorera, lui qui, juste l'adoreront, jusqu'à même à l'exception de ceux dont le nom est écrit dans les livres de l'agneau avant et immolé avant la fin du monde, à l'exception d'eux. Alors cela, si cela est écrit comme ça, alors cela doit s'accomplir ainsi. Cela n'est pas seulement écrit dans Apocalypse 13, verset 8, et ensuite au verset 9. Non, mais cela est ainsi. Et c'est pour cette raison que nous vous demandons à tous de prendre la parole de Dieu au sérieux. Nous ne sommes pas des fanatiques. Nous ne sommes pas une nouvelle religion. Nous sommes simplement des hommes qui croient Dieu, qui acceptent l'orientation de la parole et aussi la description du chemin dans tous les différents domaines et qui ont trouvé le chemin par la main de Dieu. Nous respectons la parole de Dieu dans tous les domaines qu'elle traite et nous le voyons dans l'accomplissement. Les Juifs repartent dans leur pays, dans le pays des pères. L'Église revient dans la parole des promesses possédeurs. Dieu a son chemin avec son peuple. Et comme déjà cela a été dit, nous expérimentons les prophéties bibliques en direct, si réellement il est écrit. que l'une des sept têtes qui avait été blessée à mort, Apocalypse 13, il s'est d'accord écrit que cette blessure a été guérie et que le monde entier est étonné. Et puis ensuite, il est dit à la fin du chapitre que celui qui a de l'intelligence qui calcule le nombre, et c'est le nombre d'un homme, Vicarius Filii Dei, le représentant, le vicaire du Fils de Dieu. Bien, frères et sœurs, tout est écrit clair et révélé par l'Esprit de Dieu. Dieu nous a envoyé, frère, Dieu ne nous a pas envoyé pour faire Branham pour nous définir ces choses, mais pour que nous puissions nous approfondir dans ces choses. C'est un âge prophétique et des prophéties bibliques s'accomplissent. Dieu n'a pas envoyé cet homme pour nous faire sortir des Écritures. Non, c'est pour nous ramener dans les Écritures et que nous puissions nous préparer ainsi et que nous voyons que la fin des temps est déjà. La fin des temps est déjà là. Et comme souvent j'ai déjà dit, la fin de la fin des temps, pas seulement la fin des temps, mais la fin des temps est là. Nous avons la grâce de lever nos têtes, car nous reconnaissons, et aussi sur le fondement de la parole, nous savons que notre rédemption, la rédemption de notre corps, la délivrance de notre corps est proche. Ainsi nous remercions Dieu qui réellement nous a envoyé un prophète. C'est ce qui est merveilleux. Nous ne suivons pas un prophète. Nous suivons le Seigneur. Le prophète nous a apporté la parole. Il nous a montré le chemin. Mais Jésus-Christ est le chemin. Et c'est lui que nous devons suivre. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Le Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est lui que nous suivons. Et nous remercions Dieu pour tous les indicateurs. Et les indicateurs, et particulièrement aussi pour le dernier ministère prophétique. Et nous l'acceptons et nous le recevons. Et c'est cette raison qu'il est écrit aussi, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, il recevra le salaire d'un prophète, la récompense d'un prophète. C'est-à-dire que nous remercions Dieu. Notre récompense sera ensemble avec tous les prophètes et tous les apôtres, avec tous ceux qui ont apparu et qui ont prêché la parole de Dieu sous un mandat de Dieu, parce que nous avons accepté et reçu la parole que Dieu leur a placée dans leur bouche. Nous l'avons entendu et nous l'avons cru. Et c'est ainsi que nous avons donné raison à Dieu et que nous nous sommes mis de son côté. Et tous les sujets bibliques et les enseignements bibliques sur Dieu, sur la divinité, sur le baptême d'eau, sur le souper du Seigneur, sur toutes ces vérités bibliques sont ont été assez traités et prêchés et écrits et exposés par écrit d'une manière que personne n'a besoin de rester dans les ténèbres. Et encore une fois, Hébreux 4, verset 1.
Auf dass sich bei keinem von euch herausstelle,
qu'il soit en aucun de vous manifesté qu'il soit resté ou bien venu trop tard. Cela n'a pas le droit d'être. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 6, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Tous ceux qui ont écouté la parole de Dieu et qui écoutent la parole de Dieu dans ce temps présent, vous n'entreprenez pas de tels kilomètres pour seulement écouter quelque chose. Vous venez pour écouter la parole de l'air. Vous venez pour écouter, pour croire et pour ensemble expérimenter par la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui se manifeste en ceux qui croient sa parole. Dieu voulant, nous allons demain encore venir à parler de cela. La foi est le fondement sur lequel tout est édifié. La foi. Tous ceux à qui Dieu a parlé ont cru Dieu. Et cela leur a été imputé à justice. À justice. Et la foi est la victoire qui a déjà vaincu le monde. La foi nous accorde l'accès au trône de la grâce et l'accès à tout ce que le Seigneur nous a promis et à tout ce qu'il a préparé pour nous. On peut simplement dire heureux le peuple dont le Seigneur est Dieu lui-même. Et que nous pouvons dire avec réalité, nous sommes le troupeau que sa main conduit. Et que nous pouvons dire avec réalité, nous sommes son peuple. Le peuple de l'Alliance du Nouveau Testament, racheté par le sang de l'agneau. et les autres expériences vont suivre, jusqu'à être scellés avec le Saint-Esprit, d'une manière qu'à la fin, il soit visible, que personne est resté. Et encore une fois, pour ceux qui vivent dans les éparpillements et suivent des doctrines et des interprétations à l'intérieur du message, permettez au Seigneur de vous rappeler à sa parole, de vous appeler à sa parole, revenez à Dieu, revenez à sa parole. Car Dieu est seulement dans sa parole et dans aucune et unique interprétation. Cela me vient encore justement maintenant dans la pensée. À quoi que ça servirait si on constaterait que dans le déroulement des différents siècles, on formulait des confessions de foi dans les différents conciles, on inventait des choses qu'ils ont constatées et établies comme dogmes qui leur semblaient justes, qui leur semblaient apostoliques, comme ils disent que ça, cela semble être ok, ça semble être juste. Non, c'est nous-mêmes, dans le XXe siècle, qui prétendons croire au message, nous méprisons les Écritures et acceptons des interprétations qui n'ont pas leur origine dans la parole qui est la vérité et qui ont été aussi inventées dans les différents réveils dans le développement des arts. Quel droit nous avons alors de pointer notre doigt sur des dogmes qui ont été inventés dans les différents siècles? Si aussi, dans le XXe siècle, les croyants de ce message dévient de la parole originale et ne le remarquent même pas et vivent dans la foi qu'ils croient encore comme le disent les Écritures. Non! Tout ce que nous croyons qui n'a pas son origine dans les Écritures est un mensonge. Et car la vérité est seulement dans un seul livre, et c'est ce livre ici que nous avons en tant que parole de Dieu et que nous avons reçu en tant que parole de Dieu, la Bible. À lui, le Dieu Tout-Puissant, qui a son chemin avec son peuple, avec son église, jusqu'à ce qu'il puisse être dit qu'il a fait toutes choses à merveille. Aujourd'hui, il veut le faire avec toi et moi. Aujourd'hui, il veut consoler ceux qui sont découragés et accorder du courage à ceux qui sont découragés, de la consolation à ceux qui sont en souci, guérir les malades, délier les liés. Aujourd'hui, il veut manifester sa puissance et sa gloire. Déjà aujourd'hui, comme autrefois, dans les réunions avec notre Seigneur, encore aujourd'hui, avec ou bien alors dans l'Église, avec notre Seigneur, dans les réunions avec notre Seigneur, qu'il puisse avec chacun de nous, avec chacun, faire tout à merveille par sa grâce. Nous voulons le croire et lui faire confiance. Il le fera par sa grâce. Il est celui qui suscite la foi et la rend parfaite. Il commence son œuvre en nous en suscitant la foi et il la rend parfaite. Il achève en rendant notre foi parfaite. Et à lui soit la gloire, la louange et l'honneur dans toute éternité. Alléluia. Amen. Nous voulons nous lever et ensemble, remercier le Seigneur. Nous pouvons élever notre voix. Mais avant que nous le fassions, nous voulons courber nos têtes dans la prière persévérée. Peut-être que ce serait très bien si nos deux sœurs pouvaient encore chanter ce cantique. Es-tu prêt pour l'heure? Il faut que cela se passe, que nous soyons préparés. Il faut que de nouveau cela nous soit représenté devant les yeux, que le temps va vers la fin et que le retour du Seigneur est réellement devant la porte. Es-tu prêt pour l'heure? Et ensuite, nous allons nous poser la question nous-mêmes et nous la répondons.
Bist du bereit zu der Stunde, wenn Gott dir seinen Heimkommt?
Es-tu prêt pour cette heure quand Dieu viendra prendre les siens? As-tu entendu le message? Comment est-ce que il récompense les siens? Quand il apparaîtra dans les nuées, dans sa majesté et dans sa gloire et sa beauté. Je ne peux pas l'exprimer avec des paroles. Mon cœur loue et exalte de manière glorieuse sur des rues pavées d'or dans le pays du Père. Comme ses œuvres sont merveilleuses, habillé de manière glorieuse en vêtements blancs. Peux-tu comprendre l'amour que Jésus Christ t'offre? Es-tu en paix avec lui? Si Jésus venait aujourd'hui, il a préparé la demeure pour toi, pour le troupeau, encore dans la tente, qui combat pour lui toujours d'une manière fidèle. Le jour promis arrive. De manière glorieuse sur les rues parlées d'or, de manière glorieuse dans le pays du Père. Oh, comme pleine de merveilles sont ses œuvres. De manière glorieuse en vêtements blancs. Plus rien n'est resté des douleurs. La moquerie et la honte sont passées. Jésus veut t'aimer. Que cela soit ma solution. Est-ce que tu veux avec lui entrer dans la gloire? Est-ce que tu veux voir Jésus? C'est seulement lui qui peut te faire entrer dans la paix divine. Tu as seulement besoin de venir à Jésus. De manière glorieuse, sur des rues pavées d'or, comme tes œuvres sont merveilleuses, habillé en vêtements blancs de manière glorieuse, dans la gloire. Merci. Nous voulons ensemble prier. Sentez-vous libre. Ce qui est dans votre cœur, ce qui est votre requête ou bien vos difficultés, ce qui est désir de louange et d'adoration tel que vous le ressentez dans votre cœur, que cela se passe ainsi. Et à la fin, nous allons ensemble remercier le Seigneur, simplement remercier le Seigneur pour la fidélité de Dieu et ses bénédictions. Nous levons ensemble nos voix. Bien-aimé Seigneur, toi Dieu éternel, nous te remercions pour ta présence. Nous te remercions pour ta parole, pour l'orientation, pour la vue d'ensemble. Tu nous as fait grâce et tu nous as accordé la révélation. Ta parole est une lumière, une lampe sur notre chemin, sur notre sentier. Bien-aimé Seigneur, que tu puisses réparer tous les dégâts, guérir, sauver, délivrer, bénir, et que tout soit fait à merveille de ta part, ô Seigneur, avec tous ceux qui sont venus, que tu puisses manifester la puissance de ton sang en eux, de ta parole en eux, et de ton esprit en eux, que tu puisses avoir ton chemin parmi nous et bénis tous ceux qui sont là pour la première fois. Sauve, délivre, guéris et rachète votre puissance. Oh bien-aimé Seigneur.
Halleluja! 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 Oh Gott! Oh Gott! Halleluja! Halleluja! Preis sei dir! Preis sei dir! Herr, allmächtiger Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Besonders
particulièrement pour tous ceux qui sont là pour la première fois, pour tous ceux pour lesquels de telles réunions nouvelles ne sont pas connues. Bien-aimés amis, il y a écrit deux fois la parole appelée, invoquée. D'abord, il est dit, celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Mais celui qui n'invoque pas le nom du Seigneur va devoir appeler et invoquer et crier aux montagnes et aux collines, comme dit l'Apocalypse. Seigneur, nous t'invoquons, nous crions à toi, nous t'appelons pour recevoir ton secours, ton salut, ta délivrance, ta guérison, ta révélation. Alléluia. 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 Loué sois-tu. Loué sois-tu. Loué sois-tu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. 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 Chantons ce cœur. Ceci est le jour, ceci est le jour.
Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht, den der Herr gemacht. Dies ist der Tag, dies ist der Tag, den der Herr gemacht.
Ceci est le jour que le Seigneur a fait.
Lasset uns froh und dankbar.
Nous voulons être alors heureux et reconnaissants.
Lasset das Wort und den Geist hier sein.
Et accepter, et mettre à
l'éducation.
C'est le jour que le Seigneur a fait. Avant que nous chantions encore le cœur, je l'aime, je l'aime. Je voudrais encore une fois dire, dans la première prédication, le jour de la Pentecôte, Pierre a cité la parole, a prêché la parole du prophète Joël. Celui qui invoque le nom du Seigneur sera sauvé. C'est nécessaire que quelqu'un qui est perdu crie pour son secours. Quelqu'un qui se noie, qui est perdu, qui est en détresse, et le secours, pour recevoir le secours, il faut invoquer le nom qui a été donné pour notre salut, pour notre secours. Personne ne pourra comme ça, sans le nom du Seigneur, sans l'invoquer, recevoir le secours et le salut, car Dieu nous a apparu en Christ Jésus. Et ça, c'est le nom du Rédempteur dans le Nouveau Testament. Tu l'appelleras Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de son péché, de leur péché. Et ensuite s'accomplira que tous ceux qui n'invoquent pas le nom du Seigneur, ils appelleront alors les montagnes et les collines, ils diront couvre-nous. Donc, que personne ne se gêne, se dérange, que cela gêne personne. Quand dans l'assemblée, comme ça, les croyants crient et invoquent le nom du Seigneur, cela exprime la détresse de l'âme, la détresse de l'âme. Nous ne pouvons pas comme ça être à la légère, comme ça, et... Non, la légèreté doit nous être ôtée. Nous devons prendre part réellement à ce qui se passe de la part de Dieu. J'entends encore ce cœur, je l'aime, je l'aime. ne pouvons pas être indifférents. La différence de toi nous est produite. Je l'aime.
I love him because he first loved me and purchased my salvation on Calvary.